Auteur, journaliste, DJ et artiste sonore français, je reçois Jean-Yves Leloup. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes effectivement auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Technosens. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ?
Technosens, sous-titré classique, hit et rareté. En fait, c'est un des, je crois que c'est le premier livre français, même un des rares livres internationaux, vraiment consacré au genre de la techno. Alors, je parle pas de l'électro, je parle pas de la musique électronique en général, je parle pas non plus de la house ou plein d'autres sous-courants, mais vraiment de la techno qui a été, justement, avec sa sœur jumelle, la house, l'un des deux courants fondateurs de cette révolution de la dance music électronique qui a émergé dans les années 90 et qui domine une grande partie aujourd'hui des clubs, des rêves, des festivals, des free parties, de ce genre musical vraiment qui s'est imposé aujourd'hui comme une culture populaire que les jeunes de 15 à et jusqu'aux jeunes un peu moins jeunes jusqu'à plus de 50 ans écoutent aujourd'hui, donc qui est né il y a une trentaine d'années.
Vous commencez dans votre livre de 136 pages quand même, qui est un livre assez important, par la musique du futur règne sur la pop culture. C'est très beau.
Ouais, si on revient un petit peu aux années de naissance de la house et de la techno, mais de la techno en particulier, elle naît à peu près à la fin des années 80, mais surtout à partir de 1990, à la fois aux États-Unis et en Europe, sous l'impulsion de musiciens, de DJ, de producteurs, souvent visionnaires, pour qui la musique électronique, depuis toujours, incarnait la musique du futur. Alors certes, c'est un paradoxe, puisque c'était la musique de son temps, mais qui incarnait une forme d'espoir, de regard tourné vers l'an 2000, la technologie incarnant justement ces évolutions probables et futures. Et puis les années 90, c'est aussi une époque où on parle beaucoup de l'arrivée d'Internet, de ce qu'on appelait les autoroutes de l'information. C'est une belle expression oubliée aujourd'hui, mais qui traduisait bien ce que l'on peut vivre aujourd'hui. On parlait de cyberculture aussi, qui est un terme un peu désuet désormais, mais qui laissait augurer certains espoirs. Et bien, cette musique qui était autrefois futuriste, et puis aussi, il faut le dire, en France, assez underground dans les années 90, même si elle a connu un certain pic de popularité à partir de 98, et bien aujourd'hui, c'est une musique qui est populaire, qui s'est imposée un peu partout dans le monde, à la fois sous une forme beaucoup plus commerciale ou mercantile aux États-Unis, même en France, avec ce qu'on appelle l'EDM, Electronic Dance Music, mais qui aussi touche des sphères toujours beaucoup plus underground ou voire expérimentale. En fait, c'est une musique qui couvre à la fois un répertoire de niche et puis des musiques très populaires, et pas seulement dans le monde occidental, puisque elle s'est aussi naturellement métissée en Afrique, en Amérique du Sud, elle s'impose dans les clubs en Asie. Enfin, c'est une musique véritablement mondialisée aujourd'hui et qui n'incarne plus la musique du futur pour la jeunesse actuelle, mais plutôt la musique de leur temps, enfin une modernité tout simplement. Ce qui là aussi est encore un paradoxe, puisque aussi on écoute beaucoup de house ou de techno, qui sont des musiques maintenant relativement anciennes, puisqu'elles datent, elles ont plus d'une trentaine d'années, mais qui par magie, ou sans doute aussi parce qu'elles n'ont pas eu tant de tubes que ça par le passé, incarnent encore une forme de modernité.
Vous situez, Jean-Yves, vous situez quand le début de cette techno ?
Pour moi, c'est 1990. Alors, parfois, certains remontent un petit peu plus vers peut-être 87, 88, avec certains musiciens et DJ noirs américains de Détroit. Mais véritablement, quand on reprend les quelques morceaux qui ont commencé à marquer le public, les DJ, à devenir des tubes, c'est vraiment l'année 1990. Et ce qui est intéressant avec cette année-là, c'est que vous avez des tubes qui viennent de, enfin des tubes, enfin ça reste quand même des morceaux relativement
underground.
Un peu underground effectivement, mais tout d'un coup, ils sont beaucoup plus nombreux, voilà, en 1990, et des deux côtés de l'Atlantique. Dans mon livre, je parle d'un morceau qui s'appelle Spice de Ion, qui est un truc un petit peu oublié, mais qui a été un vrai tube en Angleterre, qui est un morceau anglais. Vous avez Energy Flash de Joey Beltram, qui est un morceau fait à Brooklyn. Vous avez des morceaux qui viennent de Détroit, par exemple. Vous avez des morceaux comme Seven Stars de Quasar, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été un énorme tube aussi, qui est un morceau hollandais, ou Altered States de Ron Trent, qui vient de Chicago. Donc tout d'un coup, dans différentes villes, des deux côtés de l'Atlantique, des morceaux avec une esthétique, une dynamique un peu plus brutaliste que par le passé, un peu plus mécanique, avec des sonorités futuristes, s'imposent sur une partie des dance floors. Et quand je parle de techno, pour la différencier avec la house, on peut dire que la techno n'a pas vraiment de, on pourrait dire, de, d'instruments reconnaissables à la house. On a encore des claviers, des choses qui évoquent l'orgue, il y a des chants, il peut y avoir des refrains. Il y a des choses qui font encore référence à une musique, disons, électrique ou acoustique. Avec la techno, on est dans une forme, disons, beaucoup plus futuriste, avec une musique qui est entièrement composée à l'aide de sons électroniques ou de samples qui peuvent puiser leur inspiration ailleurs que dans les machines électroniques elles-mêmes, aussi dans la... En réalité, dans une réalité urbaine parfois, puisque cette musique intègre aussi de temps en temps parfois des sons qui viennent d'autre part que des machines elles-mêmes.
Vous ne parlez pas, hein, un petit peu quand même de house à l'intérieur, vous faites une petite analogie entre le courant techno et le courant house. Vous faites une sélection d'une centaine de morceaux. Comment vous avez fait cette sélection musicale? Vous avez été pioché dans votre collection personnelle?
Non, j'ai replongé mes souvenirs surtout. C'est surtout dans mon esprit que tout ça est ancré, puisque j'ai vécu cette histoire-là de l'intérieur. Je me suis retrouvé, j'ai travaillé à Radio FG dans les années 90, qui a été vraiment la radio centrale de quand cette culture-là est arrivée en France et surtout à Paris. C'est là où j'ai rencontré plein de DJ, je les ai vus mixer devant moi, on les a interviewés. Enfin, voilà, j'ai été à un point d'observation qui était vraiment unique. Et j'ai compris ça assez vite, que j'étais vraiment placé au bon endroit, au bon moment. Je ne sais pas si c'était un hasard, mais en tout cas, j'ai compris que c'était un bon endroit depuis lequel j'ai pu observer l'évolution de la musique. Et j'ai replongé dans mes souvenirs, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire ce type de livre grâce à Discogs et à YouTube, qui sont donc Discogs, c'est voilà, une espèce de grand répertoire de discographie d'artistes qui ont été d'abord nourris par les gens de la scène électronique. Et une grande partie aussi de la musique qui est présente sur YouTube a été nourrie, elle aussi, par les gens de la house, de la techno, de l'électro. Et ces deux plateformes sont vraiment devenues nos encyclopédies. Enfin, quand je dis nos, je parle de la scène électronique parce qu'elle a été la plus active sur ces deux plateformes et ça permet de gagner un temps fou. J'aurais retrouvé ces morceaux effectivement dans mes disques, dans ma discographie ou chez des amis DJ chez qui j'aurais dû replonger. Mais aujourd'hui, par la grâce de ce travail collectif, par la grâce aussi des suggestions, des algorithmes, on peut retrouver beaucoup plus vite ces souvenirs et bâtir ce cheminement à travers 100 morceaux emblématiques. Alors, on aurait pu en choisir. Bon, certains sont indispensables, ils n'auraient pas pu ne pas se trouver dans le livre, mais je pense qu'il y en a une bonne soixantaine ou cinquantaine. On aurait pu choisir autre chose de la même époque, d'un même courant, d'un même artiste. Voilà, mais l'idée, c'est de choisir un morceau et puis aussi d'en conseiller d'autres à chaque page, ce qui fait que le livre doit receler à peu près 700 ou 800 recommandations pour ceux qui veulent se plonger dans cette histoire.
Il y a eu des morceaux que vous n'avez pas pu trouver, parce que quand vous parlez de YouTube ou de Discogs par exemple, Discogs est une encyclopédie, YouTube qui est fait pour la vidéo et pour les sons, est-ce qu'il y a des titres qui n'ont pas été mis en ligne?
Étonnamment, c'est très rare. Par contre, sur les plateformes, on va dire plus de type Spotify, on ne trouve pas tout, parce que tout n'a pas été réédité et distribué par ce qu'on appelle aujourd'hui les distributeurs électroniques. Alors que sur YouTube ou sur Discogs, ce sont des contributions aussi de personnelles et de passionnés non commerciales, enfin qui ne passent pas par des réseaux commerciaux. Et honnêtement, c'est assez rare de ne pas trouver quelque chose. Surtout que cette époque, elle a été très bien documentée, les gens s'en souviennent très bien et entretiennent leurs souvenirs. Donc, je ne m'en souviens pas et donc c'est très rare de ne pas trouver. Alors, ça, parfois, vous avez Là, je pense à un des premiers tubes techno ou presque trans français de Lunatic Asylum. Voilà, c'est très difficile à trouver sur YouTube, effectivement, parce que les morceaux sont enlevés un à un par l'artiste lui-même, pour une raison, je ne sais pas si c'est des questions de droit ou d'autres, je ne sais pas, mais il les enlève.
Effectivement, il les enlève, c'était sur F-Communication, Lunatic Asylum.
Oui, c'est ça. C'est un morceau qui s'appelle The Meltdown, et donc qui était un énorme tube hein, qui a vendu près d'un million d'exemplaires. Donc ça montre aussi qu'en 93, on pouvait faire ce qu'on appelle des succès crossover, donc sortir de l'underground, et qui est un morceau aussi très, très mélodieux et qui est aussi le signe de cette vague trans qui va arriver à partir de 1993 et qui ne s'est quasiment jamais arrêtée depuis et qui est un des autres courants parallèles de la techno. Mais ça, j'en parle pas beaucoup. Je parle de la naissance des sous-courants techno, mais après sinon je m'en sortirais pas. Donc entre 92 et 93, on a le hardcore et la trance.
Oui, il y a une scission à un moment ou à un autre entre différents styles de musique, la techno 90-93 et ensuite la trance ou le hardcore qui arrive. Vous n'avez pas du tout abordé justement cette transition
Justement, si, c'est début vers 91, 92, 93, des morceaux qui s'incarnent encore dans la, on va dire dans la techno, qui sont joués par des DJ techno, qui bientôt vont donner naissance à des courants, à des sous-courants qui vont peu à peu se séparer du canal historique de la techno, si on peut dire.
Vous commencez votre sélection par un titre de 1981, même par un album de 1981, c'est celui de Kraftwerk, qui s'appelle Numbers, et tout à l'heure vous me disiez que ça avait commencé dans les années 90.
C'est le morceau Numbers en fait, de Kraftwerk, qui est extrait d'un album de la même année, et Computer World. En fait, j'évoque quelques morceaux effectivement des années 80 parce que c'est comme si la techno était un peu présente de manière un peu vaporeuse ou peut-être comme un exercice de style dans les années 80 chez des groupes qui viennent de la musique synthétique, de la synth-pop ou de la new wave notamment. Et sur certains albums, on trouve parfois un morceau dénué de refrain ou de mélodie pop qui devient plus percussif, plus mécanique et qui commence à laisser imaginer ce que pourrait être une dance music un peu plus futuriste dans les années à venir. Donc on trouve ça chez plein de musiciens. Je parle de Yellow Magic Orchestra, de Kraftwerk, de Front 242, de Art of Noise. Voilà quelques. J'ai pris quatre groupes. On aurait pu en prendre d'autres. Hein, Orchestral Manoeuvre in the Dark, par exemple aussi. Donc entre la fin des années 70 et le début des années 80, voilà, plein de groupes comme ça commencent à imaginer quelque chose. Et le terme techno lui-même aussi fait son apparition plutôt comme un adjectif, c'est pas vraiment un courant. Mais le terme flotte dans l'air. Et la techno, avant de devenir un courant majeur de la dance music, est, ouais, on peut le dire, un exercice de style au début des années 80.
Les classiques hits et raretés de ce techno-son, vous êtes quand même un historien de la musique électronique. Vous avez, c'est pas votre premier livre, il faut le dire.
Non.
Vous avez sorti dans les années 90-2000 Global Techno,
c'était ça ? Ouais, Global Techno, ouais, qui a été écrit vers 98 et qui est sorti, je pense, en 99 ou 2000, qui est un livre qui est épuisé maintenant, que j'avais co-écrit avec Jean-Philippe Renoux et puis le photographe Pierre-Emmanuel Rastoin, qui est une série de voyages dans une dizaine de villes différentes. Donc ce sont des reportages et des récits de voyage qui parlent déjà presque de la fin d'une époque, enfin qui essayent de parler de ces années 90 à New York, à Détroit, à Berlin, à Vienne, à Paris, à Londres et dans d'autres villes, ou l'île d'Ibiza par exemple, que l'on visite. Et ce sont des sortes de récits de voyage qui racontent aussi la première histoire de la house et de la techno. Il faudra que je m'occupe de le faire reparaître un jour, c'est bien possible qu'on y arrive. C'est vrai qu'il est sorti il y a 20 ans et c'était d'abord un beau livre avec beaucoup de belles images. Ce sont des livres qui sont assez coûteux à republier. Et ça explique la raison pour laquelle il y a eu juste une réédition, mais en noir et blanc, je dirais moins intéressante d'un point de vue visuel. Bon, j'espère que la prochaine fois, on pourra en faire un beau livre.
Et ce techno-son classique Iter Arte, c'est un petit peu la continuité justement de ses écrits ?
Oui, bien sûr. Là, je reviens un peu sur 20 à 30 ans d'histoire. Et puis, c'est étonnant parce qu'il y a eu... ça existe, hein, les livres sur la musique électronique, sur l'histoire de la DJ culture, l'histoire du DJ, mais au fond, sur la techno elle-même, il n'y a pas eu grand-chose. Et même sur sa sœur jumelle, la house dont on parlait tout à l'heure, l'idée première de ce livre, en fait, c'était effectivement de le sortir avec un livre qui se serait appelé House 100, avec un de mes confrères journalistes, mais qui finalement ne s'est pas lancé dans cette aventure. C'était un petit peu dommage. On aurait pu sortir deux livres, House et techno.
Vous avez fait quand même un travail absolument incroyable, puisque sur les 100 sélections des titres, vous expliquez d'où est-ce que ça vient, comment ça a été créé, qui sont les personnes derrière chaque morceau. Ça vous prend mais une demi-décennie.
Aujourd'hui, c'est quand même plus facile. L'Internet a révolutionné non pas seulement notre société, mais le travail des journalistes aussi. Enfin, quand on est un peu malin, quand on arrive à recouper les informations et puis à se baser aussi sur ses connaissances personnelles, c'est un peu plus facile. C'est vrai que si je n'avais pas connu cette époque-là, je serais le livre, j'aurais pu sans doute l'écrire. Un jeune journaliste peut écrire cette histoire-là, mais c'est un peu plus complexe et on manque un petit peu. Enfin, on a un recul, mais quand on n'a pas vécu les choses. Comme un rêveur que j'étais, hein, un clubber et un rêveur, c'est sans doute plus difficile. Donc là aussi, les morceaux dont je parle, ils ont, j'ai parfois un attachement qui est aussi très, très personnel.
Vous qui avez vécu justement cette évolution de la musique techno et house, qu'est-ce que vous en pensez maintenant ?
J'en pense beaucoup de bien, en fait. Je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est que à la fois, il y a des choses, on va dire, très underground, réservées, enfin, un public un peu de niche ou d'élite, et puis des choses très populaires. Et je pense que c'est plutôt bien pour une musique quand il y a plein d'échelons différents qui peuvent exister, même si j'ai peu de goût pour la musique la plus populaire de ce qu'on appelle l'EDM, qui me casse un petit peu les oreilles. Mais, honnêtement, ça serait vraiment, ça serait bête de râler contre la popularité de cette musique-là, notamment dans la jeunesse française qui l'écoute, qui s'y intéresse. Enfin, en tant que journaliste ou en tant que DJ, on voit bien qu'il y a une vraie fraternité entre les différentes générations, ceux qui ont connu les années 90 et ceux qui découvrent cette musique aujourd'hui et qui apportent parfois de nouvelles inspirations, même si effectivement, dans la techno, la house, tout a été inventé en quelques courtes années. Aujourd'hui, on ne fait que faire des variantes, des recyclages, des variations qui sont parfois intéressantes. Mais c'est un genre qu'on ne peut plus vraiment réinventer. Donc, il faudrait vraiment réinventer autre chose, une autre utopie, une autre esthétique, de nouveaux instruments, de nouvelles machines, peut-être même de nouvelles drogues pour que quelque chose existe de véritablement différent. Donc, moi, à une certaine époque, j'ai cru que cette musique, en fait, elle resterait comme ça, elle finirait un peu par mourir dans l'underground parce qu'aucune nouvelle génération ne s'y attellerait. C'était un peu naïf de ma part. Et à partir de la fin des années 2000 et surtout début 2010, tout d'un coup, on a vu une nouvelle génération, des nouveaux clubs ouvrir, des très grands festivals comme des toutes petites soirées qui ont lieu même, c'est en ce moment même sur la scène parisienne et qui sont... et qui réinvente tout ça, c'est quand même, on vit une époque assez exaltante de ce point de vue-là, même si les fondements de la dance music électronique ont été inventés il y a bien longtemps, et même presque quasiment à l'époque du disco.
Quand je sors actuellement dans les clubs, j'ai l'impression d'écouter à peu près la même musique que j'écoutais il y a une vingtaine d'années.
Bah, surtout qu'en ce moment, enfin depuis, surtout à Paris, on va dire la house un peu pure et dure, et la techno aussi, sont vraiment redevenus à la mode, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 6-7 ans. Voilà, il y a eu un moment aussi où il y avait une techno un peu industrielle, avec des sons un peu éthérés, un peu gazeux, assez ténébreuse, mais intéressante. Et là, oui, effectivement, la house, elle a vraiment, par exemple, dominé les années 90. À un moment, nous-mêmes, on n'en pouvait plus. Et là, elle revient dans sa forme, dans une forme assez, assez épurée. Mais ce sont des questions de cycle. Mais l'important aussi, c'est de savoir qu'il y a plein de micro-scènes aussi qui se développent de manière parallèle, qui continuent à inventer ou réinventer des choses en dehors de cette passion que peuvent avoir la nouvelle génération pour les grands classiques ou une esthétique très classique de la techno et de la house.
On attend quand même une petite révolution dans la musique, nous qui la connaissons, vous qui la connaissez, on attend quand même quelque chose. Qu'est-ce qui peut se passer ?
On a tendance à réécrire l'histoire et on a l'impression que, par exemple, la techno, la house, ça naît comme ça, de manière très brute, un peu presque par magie, alors qu'en fait, si on regarde bien l'histoire de la musique, ça met quelques années à apparaître de ci, de là, et puis un moment à se complexifier, ou ouais, plutôt à maturer et à éclater. Et on peut peut-être parfois deviner le futur de la musique en écoutant à droite ou à gauche ce qui se profile dans des sphères, dans certaines niches musicales peut-être, mais ça reste un travail très complexe. Et puis c'est un peu comme la théorie du chaos, quoi. On ne sait jamais ce que peut générer un genre peut générer un contre-genre, etc. Et on ne sait pas très bien parfois où les réactions de tel et tel jeune musicien peuvent nous mener.
En tout cas, ce livre Techno 100 est sorti avec donc ses raretés, hit et classique.
Ouais,
peut-être dans le désordre en fait.
Classique, hit et rareté chez Le Mot et Le Reste. Et puis pour ceux qui veulent écouter avant de lire ou écouter en lisant, tous ces morceaux-là sont sur une playlist YouTube qui s'appelle Techno 100, tout simplement.
Vous les avez regroupés, hein,
ouais, sur une chaîne. Trouvés, ouais, absolument. Ah, donc il y a une sorte, enfin une chaîne YouTube, si on peut dire, ouais, avec tous les morceaux que je n'ai pas uploadés moi-même, hein, qui sont le fait de passionner. et tous les morceaux sont là. Il y a aussi un techno sans bonus que, sur lequel je suis en train de travailler, qui peut encore même enrichir cette lecture.
Vous recevez encore des morceaux? Parce que je vous suis, moi, sur votre page Facebook, vous avez demandé aux internautes, et c'est assez drôle de le faire comme ça, les pochettes, par
des
exemple.
Des pochettes de disques, mais ça, c'est pour un autre projet. C'était pour le projet d'exposition qui aura lieu en avril 2019 à la Philharmonie de Paris sur les cultures électro, codes et cultures de la musique électronique. Et là, effectivement, on était parti à la recherche de certains types de pochettes de disques. Et effectivement, les réactions sur les réseaux sociaux ont été hyper positives. Ça montre bien que les réseaux sociaux, ça n'est pas seulement ce que l'on dénonce trop souvent, mais que cette sorte d'intelligence collective peut vraiment faire vivre cette culture là, et que vous peut-être découvrez ou redécouvrez en avril 2019 à la Philharmonie.
On aura le temps de vous réinviter, Jean-Yves Leloup. Merci d'être passé par les studios de Rage. Nous, sur le site internet, on mettra tous ces liens pour écouter ces technos sans classique, Hit et Rareté. C'est un ouvrage qui est vraiment dédié à la communauté des internautes, et particulièrement, comme vous le dites dans votre livre, les passionnés de musique électronique. Merci Jean-Yves.
Merci Fabrice.